Bonjour Fabrice Drouet, il faut libérer l'antenne, bien entendu.
Écoutez, je vous laisse faire votre émission à laquelle il manque une page aujourd'hui.
Oui, puisque nous allons parler de la censure et du livre en France. La censure est mon ennemi littéraire, la censure est mon ennemi politique, la censure est improbe, malhonnête et déloyale. Victor Hugo. D'histoire. Depuis Rabelais, qui avait été condamné par la Sorbonne et mis à l'index par l'Église, jusqu'à aujourd'hui, la censure a toujours existé. Bien avant le cinéma, la télévision ou Internet, elle s'est d'abord exercée sur ce qui est resté pendant des siècles, le principal moyen d'expression des idées, le livre. Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 200 ou 300 censeurs, écrivait Beaumarchais. Et si aujourd'hui il n'y a plus officiellement de censeurs ni de censure, si le livre n'a plus l'influence qu'il avait à l'époque de Beaumarchais, la loi fixe toujours des bornes à la liberté d'expression, comme il y a 5 siècles, quand les autorités politiques et religieuses s'étaient méfiées d'une invention révolutionnaire et qui risquait d'ébranler leur pouvoir.
Je mets sous les yeux de votre majesté le premier exemplaire du livre, le premier que l'on imprime en France.
Comme c'est émouvant, et n'importe qui peut l'acheter.
N'importe quel sujet de votre majesté.
C'est magnifique, évidemment, mais que c'est grave. France, donc, n'importe qui peut l'acheter, c'est effrayant.
De tout ce que le roi Louis XI a pu faire pour son pays, je ne vois rien, à mon avis, qui soit plus important que d'avoir imposé l'imprimerie en France.
Je commence à le regretter. Tant qu'on imprimera que des chroniques, des poèmes, je veux bien, mais comme il va falloir surveiller ces gens-là, songez au mal qu'ils peuvent faire, c'est terrible.
Bruno Blessel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était, vous l'avez peut-être reconnu, Sacha Guitry dans Si Paris nous était compté, Sacha Guitry dans le rôle de Louis XI, s'inquiétant de l'invention de l'imprimerie, dans une histoire du livre que vous avez publié chez Gallimard, découverte, vous dites justement la même chose, c'est qu'à l'époque, au fond, où elle apparaît, eh bien, l'imprimerie, beaucoup de gens se méfient de l'imprimerie, pour quelle raison ?
Il faut bien voir que l'imprimerie a été une véritable révolution dans l'histoire du livre. Auparavant, fabriquer un livre, c'était à l'unité, c'était pendant plusieurs mois pour arriver à mettre au jour un exemplaire, c'était donc extrêmement lent. L'imprimerie, d'un seul coup, va permettre de fabriquer à 200, 300, 500, 1000 exemplaires, même très vite, le même ouvrage, et donc va modifier considérablement, radicalement, les conditions de diffusion du livre et donc de la pensée et des idées. Voilà pourquoi, très vite, les différents pouvoirs se sont méfiés de cet objet si petit et si plein de dangers.
Et surtout de son contenu, bien sûr, c'est ce qui va expliquer, non pas l'apparition, parce qu'elle existait déjà sous des formes un peu particulières du temps des manuscrits, mais ce qui va expliquer, bien entendu, le développement de la censure, et notamment par l'Église. L'Église est la première à se méfier justement de l'imprimerie parce que on est aussi à l'époque de la réforme et que Luther a beaucoup utilisé justement l'imprimé pour diffuser justement la réforme.
Oui, oui. Rappelons que l'imprimerie donc est apparue vers 1450, dès la fin du XVe siècle, avant même l'arrivée de Luther, les papes, la papauté s'est méfiée de l'imprimerie dont elle a bien vu qu'elle était porteuse éventuellement de contestations d'une religion qui jusqu'ici était pratiquement sans concurrence. Donc effectivement, les papes, la papauté a mis en place un système de contrôle bien connu qui est l'index, qui permettait de dresser la liste des ouvrages dont on se méfiait.
Il y a même un dominicain redoutable qui s'appelait Fra Filippo qui disait faut supprimer l'imprimerie. Ben oui. Tellement il était inquiet. Alors, en France, François Ier, à l'époque de François Ier, on commence aussi à s'en inquiéter, mais pour défendre les intérêts de l'Église, parce qu'au début, ce sont surtout les écrits contre la religion, en tout cas contre christianisme, contre le catholicisme romain, qui menacent, et François Ier va utiliser deux instruments de censure, deux institutions qui sont le Parlement et la Sorbonne.
Oui, François Ier s'est d'abord appuyé effectivement sur ces deux institutions qui étaient chargées de se porter garante effectivement de la bonne pensée des écrits diffusés par l'imprimerie. Il faut bien dire que l'arrivée des idées de Luther, l'essor du protestantisme, s'est fait lui aussi en s'appuyant sur l'imprimerie. Luther a beaucoup utilisé l'imprimerie pour diffuser ses idées à travers des livres, à travers des tracts, à travers des affiches, et ses opposants, enfin, c'est-à-dire l'Église catholique et le roi de France, se sont émus évidemment de cette formidable puissance de l'imprimerie. Alors effectivement, François Ier a chargé la Sorbonne, dans un premier temps, de veiller à la conformité des textes nouvellement imprimés, et elle s'est acquittée de ce rôle dès 1521, et on songe que la rupture avec Luther ne datait que de 1517. Donc ça s'est fait très vite, effectivement.
Et on ne se contentait pas d'interdire les livres, car la censure, ce n'était pas une plaisanterie à l'époque, la censure pouvait aller jusqu'à non seulement le fait de brûler les livres, mais même de brûler leurs auteurs ou de brûler les imprimeurs. Il y a un cas que vous citez en 1586 qui a été dramatique, mais qui n'a pas été le seul. C'est un imprimeur qui a été brûlé à Paris.
Oui,
Étienne
Dolay, en 1546, oui, qui a été brûlé, place Maubert avec ses livres. Nous sommes au temps des guerres de religion, et on ne plaisantait pas avec les hérésies, et l'Église a toujours été très dure avec ses opposants.
Et puis peu à peu, alors, l'administration royale va retirer le droit de censure à la Sorbonne et au Parlement pour l'exercer elle-même contre les auteurs et éditeurs de pamphlets ou de libelles, visant cette fois-ci non plus seulement l'Église, mais aussi l'État. C'est ce qu'on appelait les Mazarinades, qui à l'époque de la Régence d'Anne d'Autriche brocardait son premier ministre, le cardinal Mazarin.
Notre France est ruinée, faute de ce cardinal, abrégé les années, il est l'auteur du mal. Faut sonner le tocsin zin zin pour pendre Mazarin. Ce sont toutes les dernières Mazarinades. Vous connaissiez celle-ci ? Ce foutu Sicilien ne vaut rien, il est bougre comme un chien, elle en a sur ma parole dans le cul. Ne continuons pas, c'est injurieux pour la reine. Et celle-là, à chaque coup qu'il lui donne, il fait branler la couronne. C'est impayable. Ou plutôt non. Savez-vous ce que je fais ? Je les fais saisir un peu partout par la prévôté, je les revends au libraire. D'ailleurs, le cours monte. 1000 écus le lot. Ça vous intéresse ?
Pour villes et villages, vaccins il faut donner, tromper tous les papages qu'il voulait ordonner, pour sonner le tocsin, pour prendre Mazarin.
C'est une de ces Mazarinades qui exaspérait, on s'en doute, le premier ministre d'Anne d'Autriche. Comment se fait-il ? Comment est-ce que, alors ces Mazarinades, je le suppose, elles étaient anonymes, mais qui les imprimait ? Qui les diffusait en France ?
Bien, elles étaient imprimées par des imprimeurs clandestins, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des. Les imprimeurs ne recevaient pas l'autorisation d'imprimer ce genre de documents. Donc, c'était des presses clandestines, ou éventuellement des presses situées à l'étranger, qui pouvaient servir, qui pouvaient héberger les imprimeurs qui ne pouvaient s'exprimer, exercer librement leur profession. En
notamment aux Pays-Bas, je crois que
notamment
c'était vraiment un peu la batterie de tous les écrits clandestins. Alors, ils étaient distribués par ce qu'on appelle des colporteurs. Rappelez-nous d'abord l'étymologie du mot, Bruno Blassel.
Alors, colporter, c'est porter autour du col, autour du cou. Effectivement, on évoque là une profession un petit peu particulière qui a disparu maintenant de nos jours. Les colporteurs circulaient de ville en ville ou dans les campagnes avec une besace dans laquelle ils regroupaient un certain nombre d'objets divers de la vie quotidienne à vendre. C'était un peu des bazars ambulants, si vous voulez. Et parmi ces objets divers, il y avait des livres. Il pouvait y avoir des livres clandestins, des livres non autorisés, des petits textes de la bibliothèque bleue aussi, des choses comme ça, dont se méfiaient aussi les autorités. On les a souvent pourchassés.
Il y en a un qui figure d'ailleurs en illustration dans votre livre, là, sur l'histoire du livre. C'est assez étonnant, effectivement, de le voir avec cette petite caisse et tous ces livres interdits. Alors, il y avait deux choses assez curieuses. C'est que, évidemment, ces pamphlets, le pouvoir les détestait, mais il les utilisait aussi, il les récupérait contre ses adversaires. Au moment des Mazarinades, c'est la Fronde, et évidemment, il y a d'un côté Mazarin, la reine et le tout petit Louis XIV, et de l'autre les Frondeurs, mais chacun s'envoie des pamphlets.
Chacun s'envoie des pamphlets, bien entendu, c'était un peu la guerre des tracts ou la guerre des pamphlets. Les pouvoirs publics voyaient aussi bien que leurs adversaires les immenses possibilités de l'imprimerie et ont toujours cherché à exercer un contrôle des métiers du livre.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, l'imprimerie, on fait plutôt les livres, les imprimeurs autorisés. Alors, il y a quand même un aspect positif dans la censure, c'est qu'elle visait aussi à protéger les imprimeurs des contrefaçons. En fait, c'est une espèce de défense des droits des imprimeurs et de leurs privilèges, parce qu'il fallait avoir un privilège pour publier.
Très vite, on a cherché à contrôler les métiers du livre et donc à les organiser, d'une part en confréries qui étaient extrêmement contrôlées, et d'autre part en instituant un système de permission d'imprimer des ouvrages, c'est le système du privilège, et donc on décernait à un auteur ou à un éditeur le droit d'imprimer un livre pendant une durée déterminée. Donc un livre qui évidemment était soumis à censure, mais en contrepartie, personne d'autre ne pouvait réimprimer ce livre. C'était une façon de protéger effectivement la profession, l'auteur ou le libraire.
Censure préalable.
Censure préalable. Oui, en fait, tout l'ancien régime avant la Révolution est une époque de censure préalable. Les textes avant d'être publiés doivent être soumis à des censeurs. La profession de censeur est une profession évidemment qui a été mise en place au XVIIe siècle en petit nombre et qui n'a cessé de se développer. De 4 au départ vers au début du XVIIe siècle, ils sont près de 180 à la veille de la Révolution.
Oui, ça fait beaucoup. Alors justement, ça s'est développé notamment à l'époque de Louis XIV, hein, qui évidemment n'aimait pas du tout les écrits qui pouvaient lui déplaire.
Comme à l'époque de la monarchie absolue.
La monarchie absolue. Et puis alors qui s'est aggravé encore plus au XVIIIe siècle, qui fut à la fois le siècle des Lumières et celui de la censure.
J'espère que vous ne fréquentez plus ces immondes philosophes, hein. Ces matérialistes, ces d'Alembert, ces Helvétius, hein. Ces Diderot.
Nous avons rompu toute relation avec ces gens-là.
Ce Diderot surtout, un suppôt de Satan, dont nous avons réussi à faire interdire l'encyclopédie.
Police du roi, l'encyclopédie que vous dirigez avec M. Diderot est interdite.
Non, monsieur, depuis longtemps. Hein.
Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours? On s'y prend l'impression, on ferme l'imprimerie, on pose les télés, et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau, se répand à l'étranger. L'imprimerie clandestine ici, où est Diderot?
Alors la censure au XVIIIe siècle était, on vient de l'entendre, à la fois importante, la police intervenait régulièrement, et totalement inefficace, parce qu'elle n'a jamais empêché ni la publication d'encyclopédies qui a été parfois retardée, ni les œuvres de Voltaire et de Rousseau. On a l'impression d'une espèce d'impuissance que reconnaissait d'ailleurs le responsable de la censure en France, qui s'appelait Malesherbes, et qui était le patron de la librairie. C'est pas un endroit, comme aujourd'hui, où on vend les livres, c'est l'endroit où on les censure, la librairie.
Oui, la librairie, c'est tout. Toutes les affaires qui concernent le livre. C'est vrai que le XVIIIe siècle est un petit peu contradictoire. C'est le siècle d'une administration de plus en plus tatillonne, de poursuites contre les mauvais livres. Et en même temps, c'est celui d'une libéralisation de plus en plus grande. On ne peut rien faire contre l'essor croissant de l'imprimé. L'imprimé est le média vraiment dominant. Le livre est le média dominant, évidemment, à cette époque. Et il y a de l'imprimerie clandestine, il y a des imprimeries à l'étranger. On ne peut rien faire, je crois, contre cette marée montante. Et finalement, on finit par composer un petit peu avec l'ennemi de façon à essayer de maintenir quand même un certain contrôle. On fait en échange, en contrepartie, certaines concessions. Et finalement, la grande encyclopédie l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est le grand livre du XVIIIe siècle, a eu, comme vous le disiez, quelques difficultés, quelques vicissitudes, mais a fini par paraître intégralement et être un formidable instrument de combat contre l'absolutisme et contre les idées traditionnelles.
Oui, d'autant plus qu'il y avait parmi les censeurs des gens qui étaient plutôt proches des philosophes, comme Fontenelle, comme Malesherbes, le censeur en chef, oui. qui fermait volontiers les yeux. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait une répression beaucoup moins brutale qu'autrefois. On avait cessé de brûler les livres, surtout de brûler leurs auteurs. Ils étaient quand même en Bastille.
Voilà, ça contentait quand même d'un petit séjour à la Bastille, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais évidemment, malgré tout, moins grave que de mourir sur un bûcher au milieu de ses ouvrages.
Et pour des œuvres qui ont largement, vous le disiez, contribué contribué à déclencher une révolution dont la Déclaration des droits de l'homme allait abolir la censure.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies. Mais pour le comprendre, pas pour le diriger. Sans trahir la vérité ni ma conscience.
Un coup de presse. Et les plombs qui ont été préalablement ancrés sont reproduits sur le papier.
C'est très impressionnant, je vous l'accorde, monsieur Desmoulins, mais êtes-vous obligé d'être si violent? Tenez, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de s'accrocher aux lanternes des rues. Non.
J'énonce un principe.
On n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre.
Alors la révolution, bien sûr, c'était la fin de la censure, pas pour longtemps, Bruno de la Selle, vous le rappelez.
Oui, pas pour longtemps, parce qu'effectivement, on a vite vu les dangers de cette liberté, et les révolutionnaires, et plus encore peut-être Napoléon après, ont remis en place une législation qui n'avait dans un premier temps rien à envier à celle de l'Ancien Régime.
Parce qu'elle a multiplié là, cette autorisation, cette liberté de la presse, hein, qui s'étend bien sûr au livre, à multiplier les pamphlets, il y en avait de tous les côtés, des pamphlets contre-révolutionnaires qui ont inquiété les révolutionnaires. Je cite par exemple ce décret du 29 mars 1793 de la Convention, quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple sera traduit au tribunal extraordinaire et puni de mort. Donc vraiment, on en revient.
On en revient exactement à un régime autoritaire, bien sûr.
Alors, ce sera le cas aussi sous Louis XIII, sous Charles X, qui avait interdit Marion Delorme de Victor Hugo, sous Louis-Philippe, qui malgré la charte du 14 août 1830 avait dit la censure, on ne reviendra jamais à la censure, pas du tout, il va également la pratiquer. Puis alors, on s'attaque aussi, et de plus en plus, on le faisait déjà au siècle des Lumières, à la censure contre les écrits jugés licencieux. C'est plus pour des atteintes à la morale, ou à ce qu'on appelle la morale publique, ou l'idée qu'on s'en fait, que l'on attaque au XIXe siècle les auteurs.
Oui, les attaques contre Dieu, contre le roi sont moins sévèrement réprimées. Celles contre la pornographie, ou jugeait-elle, effectivement, sont de plus en plus vigoureuses et il y a comme une grande frayeur à l'égard de la pornographie et il y a le nombre de livres qui sont interdits pour pornographie, pour obscénité, va croissant dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a des exemples fameux.
Oui, il y a deux exemples fameux, vous les citez. C'était il y a exactement 150 ans, en 1857, la même année, l'avocat impérial Ernest Pinard a tenté de faire condamner Les Fleurs du Mal de Baudelaire et un roman sulfureux de Gustave Flaubert.
Cet homme, ce Flaubert, a créé un caractère de femme française qui est à la fois un déshonneur pour la France et une insulte envers les femmes. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà l'héroïne qu'on nous demande de prendre en pitié. En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse.
Messieurs, je me défends d'avoir offensé la morale publique. Messieurs les juges, je maintiens que cette histoire est prise dans la vie.
Alors en fait, Flaubert sera acquitté, je crois, et le procès, d'ailleurs, n'aura servi
à quelque chose qu'à faire la publicité finalement de Flaubert. C'est ça le paradoxe de la censure, Bruno Blassel, c'est qu'elle risque de favoriser au fond les livres ou les œuvres qu'elle veut interdire.
Absolument, oui, je pense que quand même Flaubert et Baudelaire auraient atteint la notoriété sans cette aide de la censure. Ce qui est amusant dans le cas de Madame Bovary, c'est que l'ouvrage est d'abord paru en feuilleton dans une revue de Paris en 1856, et que pourtant les responsables de la revue, qui étaient des amis de Flaubert, avaient tenté de limiter, de censurer déjà quelques passages, ce qui avait provoqué d'ailleurs la colère de Flaubert, qui dans sa correspondance se plaint beaucoup des brimades qu'on lui fait subir. Mais même comme ça, les pouvoirs publics ont estimé nécessaire de poursuivre l'ouvrage de Flaubert pour atteinte à la morale, effectivement, à la morale publique, hein, aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, voilà. Notamment la scène du fiacre, par exemple, on y voyait une glorification de l'adultère, donc, etc. Mais c'est vrai que bon, ça a été finalement.
Et Baudelaire la même année aussi.
Alors Baudelaire la même année. Et là, les fleurs du mal sont parues chez un éditeur qui était un petit peu plus sulfureux, qui habitait à Alençon, qui s'appelait Poulet Malassis, un petit peu pittoresque. Et effectivement, dès la parution de cet ouvrage, il y a des critiques très vigoureuses dans certaines presses qui encouragent sans doute les pouvoirs publics à interdire non pas l'ensemble du livre mais certains des poèmes, et donc il y a un procès au cours duquel Baudelaire est condamné. Il doit renoncer à la publication de 6 poèmes sur la centaine que comportaient les fleurs du mal, et il y a également une amende pas très élevée qui lui est infligée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ose pas dire que c'est un bienfait de la censure, que penserait-on, mais que néanmoins ça a obligé Baudelaire à retravailler, à refaire d'autres poèmes pour la future édition qui est parue 4 ans plus tard.
Alors là, on est sous le Second Empire, oui. Arrive la Troisième République, et on sans doute, elle revient sur les principes de la Première, ou en tout cas du droit de l'homme de 1789, elle abolit la censure, mais quand même, elle lui fixe des limites, qui sont d'ailleurs toujours valables, puisqu'elle sanctionne, la loi sanctionne la provocation au crime et au délit, la publication de fausses nouvelles, l'injure, la diffamation, l'offense au président de la République ou envers des chefs d'État étrangers, la publication des actes de procédure criminelle ou correctionnelle, l'outrage aux bonnes mœurs, hein, on la retrouve. Finalement, on a vraiment l'impression que, quoi qu'on fasse, on a beau supprimer le nom, la chose reste toujours, et elle va même s'aggraver pendant les deux guerres mondiales. Là, on s'en doute, c'est pour des raisons stratégiques que, évidemment, on surveille très étroitement le livre, Bruno Blassel.
Oui, tout état de guerre voit le rétablissement de la censure, et la France pendant la Seconde Guerre mondiale n'y a pas échappé. Mais il faut bien distinguer deux niveaux. Il y a le rétablissement de la censure dès la déclaration de guerre en 1939, et puis il y a la censure imposée par l'occupant allemand, qui est une censure beaucoup plus dure. Elles, notamment, ont été à cette époque édictées par les Allemands, par les occupants, des listes de livres interdits à la vente et interdits chez les éditeurs, interdits à la lecture dans les bibliothèques. Ce sont les fameuses listes auto qui ont marqué un petit peu l'histoire de l'édition française par leur dureté quand même, et on y trouvait notamment évidemment les ouvrages concernant le judaïsme, et puis les ouvrages favorables au communisme essentiellement, quoi.
Et puis alors, on, quand même, ça a été, de ce point de vue-là, assez positif, c'est l'apparition d'une célèbre maison d'édition clandestine, les éditions de Minuit, qui vont se poursuivre après la guerre avec ce fameux livre de Vercors, Le silence de la mer, mais ces éditions de Minuit ont été un peu l'honneur de l'édition à cette époque-là, et alors qu'après la guerre, eh bien, on va voir se prolonger, au fond, des méthodes de censure qu'on aurait pu voir disparaître, quand la 4ème République, par exemple, interdisait plusieurs livres, dont La question d'Henri Alleg sur la torture en Algérie et J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian.
Ce roman, avec une hypocrisie assez superbe d'ailleurs, a été interdit par la 4ème République. Ce roman a été interdit parce que, soi-disant, il était un peu trop violent. Moi, personnellement, j'étais arrivé à ma majorité sous la 3ème. La 3ème était plus libérale que la 4ème, qui était plus libérale que la 5ème. Il est hors de doute que maintenant, je n'aurais même pas eu l'idée de concevoir J'irai cracher sur vos tombes. Maintenant, il faut faire marcher le bénitier à tout va et respecter le sabre.
À Paris, la police judiciaire a procédé à la saisie du livre d'Henri Alleg, La question. Cette saisie a été effectuée sur commission rogatoire du tribunal militaire, qui avait ouvert récemment une information pour, je cite, participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Elle est malingre, elle est petite, elle boit le grand verre d'eau bénite. Tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, elle a une fête. Censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries des radios. Faudrait qu'un de ces jours on muselle les battleurs et leurs bagouts. Faudrait qu'un de ces jours les bordels reviennent faire un petit tour chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure que je ne suis pas la seule au monde à vouloir qu'un jour on censure la censure, la censure.
Catherine Sauvage, voir qui voulait qu'un jour on censure la censure, c'est pas près d'arriver ça, Bruno Blassel. Au fond, dans toute l'histoire que l'on va faire brièvement de la censure, on a l'impression qu'elle est absolument inévitable, ou en tout cas qu'on ne peut pas la contourner, qu'elle existera toujours.
C'est un petit peu le paradoxe. Je crois que tout le monde est contre la censure, mais en même temps, aucun pouvoir n'a réussi à s'en passer complètement. Je crois qu'il peut quand même y avoir un consensus. Il faut bien qu'il y ait malgré tout des lois qui poursuivent certains délits, et si certains médias, par exemple, livrent, enfreignent ces lois, on n'est pas forcément si choqué que ça, qu'ils soient poursuivis.
Pensez peut-être qu'il y a la loi de 49 qui cherche à protéger les mineurs contre les publications violentes ou pornographiques, par exemple. Ça peut servir aussi quand même à aller plus loin. On voit pas très bien ce que vient faire là-dedans, par exemple, l'interdiction du livre d'Aleg sur la torture.
Oui, c'est toute l'ambiguïté. Quand on a un tel instrument entre les mains, on peut tenter d'en abuser. C'est toute la difficulté. Mais je pense quand même que la lutte contre tout ce qui protège la dignité humaine, tout ce qui protège l'enfance, je crois qu'il y a, il pourrait y avoir consensus à ce sujet.
Parce qu'il y a des lois qui ont été quand même critiquées, même par ceux qui avaient toutes les raisons a priori de la trouver convaincante. Par exemple, le Guesso qui interdit les publications à caractère raciste, ou qui remettent plutôt en cause les crimes contre l'humanité. Mais c'est vrai que là, ça veut dire que c'est une censure, au fond, d'une certaine manière, des historiens auxquels on ne peut pas... Alors, il y a aussi autre chose, Bruno Blassel, c'est que, est-ce que ça compte tellement, il n'y a plus de censure du livre aujourd'hui, parce que le livre n'est plus le premier support, justement, des idées.
Absolument. Je crois qu'interdire un livre, ce serait s'exposer à le trouver très rapidement sur Internet, et il est beaucoup plus difficile, évidemment, de contrôler tout ce qu'on voit sur Internet, puisque ça échappe aux frontières. Donc, le livre n'est plus du tout le média dominant. Il y en a beaucoup d'autres qui sont sans doute jugés maintenant plus dangereux, que ce soit le cinéma ou effectivement le web, quoi.
Il peut y avoir aussi des moyens plus, plus sournois de faire interdire un livre en passant un coup de téléphone quand il gêne telle ou telle personne. En tout cas, c'est des formes modernes de la censure avec aussi une certaine autocensure. Merci Bruno Blassel. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire du livre en 2 volumes, publié aux éditions Gallimard dans les collections Découvertes, et de la Bibliothèque Nationale de France, que vous avez écrit avec Jacqueline Mellet-Sanson dans la même collection. À lire également Histoire de la censure dans l'édition de Robert Netz aux Presses Universitaires de France dans les collections Que sais-je, et le dossier consacré à la censure dans la revue L'Histoire de février 2007. Je signale aussi, à l'occasion des 150 ans de la première édition de Madame Bovary de Gustave Flaubert, l'apparition du fac-similé de l'exemplaire de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, une coédition Alinéa, édition Point de vue et Elisabeth Brunet. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, Le Libertin de Gabriel Aguillon, disponible en DVD chez Pathé, La Révolution Française, Les Années Lumière de Robert Henrico aux éditions Ariane Vidéo, Madame Bovary de Vincente Minnelli, et enfin un extrait du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Stéphanie Coulon, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Bertrand Chaumeton.